Il est 6h.
Je suis maradonien de naissance. Diego, c'est tout pour moi. Il représente plus que ma famille, que ma propre mère. Aujourd'hui, une partie de moi est morte, une grande partie de ma vie.
L'émotion immense en Argentine après l'annonce de la mort de Diego Maradona. C'est tout un pays qui pleure la disparition d'une légende du football, enfant des quartiers pauvres et défenseur de la révolution. En France, nouvelle conférence de presse de Jean Castex ce matin. Au programme, le détail des assouplissements annoncés par le chef de l'État en début de semaine. Alors que les stations de ski s'organisent pour pouvoir ouvrir avant les fêtes, nous irons en Martinique, où les mesures sanitaires sont déjà allégées. Réouverture des commerces, reprise des messes pour le plus grand bonheur des habitants. Dans ce journal aussi, l'interdiction du chauffage au gaz dans les bâtiments neufs à partir de l'année prochaine. Et puis Donald Trump n'est pas décidé à lâcher l'affaire. Le président sortant appelle ses partisans à inverser le résultat du scrutin.
Après le journal, un conte qui a traversé les générations. Alice au Pays des Merveilles, à 155 ans aujourd'hui. Et mon invité inattendu, la mise en musique. Avec sa trompette, il a fait rencontrer le jazz et la voix d'un rappeur. Il nous raconte dans un quart d'heure pourquoi Alice n'a pas pris une ride. Et puis on retrouvera Fanny Agostini. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
El Pibe de Oro, le gamin en or, s'est donc éteint hier. Diego Maradona est mort d'une crise cardiaque, il avait 60 ans. Aujourd'hui, le monde entier pleure un symbole, une légende du football. En Argentine, son pays natal, 3 jours de deuil national ont été décrétés. Hier soir, des centaines de fans se sont rassemblés à Buenos Aires, la capitale, pour rendre hommage à leur star nationale. Le reportage de notre correspondante Aude Villiers-Moriamet.
Rien ne les a arrêtés, pas même la pandémie de coronavirus. Masque parfois sous le menton, les supporters de Maradona se sont rassemblés par milliers près de l'obélisque en plein cœur de la capitale pour chanter ensemble des slogans en mémoire de leur idole décédée ce mercredi. Nicolas Gomez, 31 ans, visiblement ému, porte un t-shirt à l'effigie de Diego Maradona.
Je suis maradonien de naissance. Diego, c'est tout pour moi. Il représente plus que ma famille, que ma propre mère. Aujourd'hui, une partie de moi est morte, une grande partie de ma vie. Je suis triste, mais je sais qu'il va reposer en paix parce qu'il a tout donné à l'Argentine et que les gens l'aiment.
Drapeau argentin bleu ciel et blanc à la main, Myriam Potrichot, 52 ans, tenait elle aussi à se rendre ici en famille pour saluer la mémoire du meilleur joueur de l'histoire du pays.
Et bueno, Diego représente l'Argentine. On voyage et quand on dit qu'on est argentin, on nous cite tout de suite Maradona. Il incarne le peuple argentin. Il avait ses défauts en tant que personne, bien sûr, mais en tant que joueur de foot, c'était une idole totale.
Dans la soirée, depuis leur fenêtre, les Argentins ont applaudi vigoureusement en hommage à Diego Maradona. Il devrait aussi être des milliers à défiler à la Casa Rosada, le palais présidentiel, d'ici quelques heures. C'est là qu'aura lieu la veillée funèbre de Diego Maradona avant son enterrement. À Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamet pour Europe 1.
Et à l'instant, pour cette veillée funéraire, la dépouille de Diego Maradona est arrivée au palais présidentiel de Buenos Aires. Buenos Aires, où nous retournerons tout à l'heure pour la revue de presse internationale à 6h50. Revue de presse internationale, petit tour du monde pour voir comment cette disparition est racontée à travers le monde. Diego Maradona, qui était aussi connu pour son engagement politique.
Mais proche de Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chavez et de la gauche révolutionnaire en général, il fustigeait le comportement des hommes politiques argentins. Écoutez.
Je pense que la dignité des gens qui vivent ici est bien supérieure à celle qu'on peut rencontrer ailleurs. Dans mon pays, les hommes politiques sont riches, mais ils ne donnent rien aux gens. Ils m'ont souvent proposé des postes, mais j'ai refusé, parce que je ne suis pas là pour voler les gens. J'ai rencontré des politiques, mais ils ne voulaient plus me voir après, parce que je n'achetais pas mes mots.
Voilà la voix de Diego Maradona, extraite du documentaire Maradona par Emir Kusturica.
Et on y revient avec Jérôme Lacroix dans la page des sports, juste après ce journal. Il est 6h05 sur Europe 1, le reste de l'actualité à présent. Et en France, c'est maintenant une question d'habitude. Après les allocutions d'Emmanuel Macron, c'est Jean Castex qui présente les détails.
Le Premier ministre s'exprimera en fin de matinée à 11h. Et une nouvelle fois, Aurélie Herbemont, il y a encore beaucoup de choses à finaliser.
Et oui, à Jean Castex d'éclaircir certains points d'ici ce week-end. Les auto-écoles et agences immobilières, dont le sort était en suspens, devraient rouvrir samedi, comme les autres commerces. Il doit aussi arrêter la jauge pour les cultes. Les responsables religieux veulent plus que les 30 personnes annoncées par Emmanuel Macron, mais certains au gouvernement plaident pour un assouplissement uniquement à partir du 15 décembre, en clair, quand on passera au couvre-feu. Moment crucial pour cinémas et théâtres qui attendent un arbitrage sur l'horodatage des billets qui serviront de justificatif de déplacement. La tolérance pour les séances finissant un peu après 21h est en suspens. Mais Jean Castex n'aura pas réponse à tout ce matin. Le ski à Noël, ça ne sera pas tranché aujourd'hui, ni l'isolement des malades. Le président a ouvert la porte à un système contraignant, mais le principe de sanction ne fait pas l'unanimité au sein même de la majorité. Au gouvernement, on évoque un débat parlementaire en décembre et un projet de loi en janvier. Idem pour le comité citoyen sur le vaccin. À ce stade, c'est toujours en cours de calage.
Aurélie Herbement du service politique d'Europe 1, vous disiez, Aurélie, que le ski à Noël ne sera pas tranché aujourd'hui. Emmanuel Macron a pourtant annoncé que ces stations de ski devraient rester fermées pendant les fêtes.
Mais les professionnels de la montagne comptent bien se faire entendre. Dominique Marcel est PDG de la Compagnie des Alpes, propriétaire notamment de 11 domaines skiables en France. Selon lui, la situation sanitaire s'améliore et il est encore temps pour que les stations se préparent au mieux pour accueillir les touristes dans de bonnes conditions.
On va essayer de faire nos preuves. Je pense qu'on a mis en place déjà des protocoles crédibles. D'ailleurs, les pouvoirs publics ne le contestent pas. Dans les remontées, à bord des remontées, dans les files d'attente, c'est d'abord des files d'attente organisées avec les distanciations prévues. C'est le port du masque donc dans les installations, dans nos remontées. C'est du gel absolument partout pour nos visiteurs. C'est nos installations qui sont adaptées au contexte sanitaire. Et encore une fois, une station, c'est les mêmes risques que dans n'importe quelle ville. Vous savez, 70% de nos clients sont dans des appartements, comme le sont les habitants de Paris, des grandes villes, des petites villes ou des villages. Nous avons encore du temps, nous avons au moins 2 semaines, peut-être davantage, avant de prendre cette décision. Ne nous précipitons pas, l'évolution sanitaire est plutôt favorable et attendons en tout cas de voir ce qu'elle sera dans 2 semaines au moins.
Voilà, les stations de ski qui ne lâchent pas. Dominique Marcel de la Compagnie des Alpes, propos recueillis par Mathieu Bock. Et une voix du ski français ce matin sur Europe 1 tout à l'heure à 6h40, c'est Luc Alphand qui sera mon invité, l'ancien champion de descente, l'enfant de Serge Chevalier, lui-même fils d'hôtelier. Il est avec nous tout à l'heure à 6h40.
On va maintenant traverser l'Atlantique direction la Martinique pour avoir un aperçu de ce qui nous attend ce week-end, puisque 72 heures avant la métropole, l'île a pu appliquer les premières mesures de déconfinement annoncées par le chef de l'État. Les commerces ont donc rouvert leurs portes et les fidèles ont pu retrouver la messe. Fanny Marceau.
Ce moment chez le coiffeur, Anita l'attendait depuis longtemps.
C'est super, hein, c'est bien de se faire bichonner. J'appelle aujourd'hui pour avoir rendez-vous et puis je suis ici à 7h.
Dans ce salon, elle est la seule cliente. En une journée, Dario, le coiffeur, n'en a pas vu plus de 10. Il faut dire que l'annonce de la réouverture n'a été faite que la veille au soir.
On a été tous pris, je pense, au dépourvu. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore complètement débloqué, mais je pense que d'ici demain, ça ira mieux. Mais le téléphone sonne déjà beaucoup. C'est vrai que nous avons déjà pris beaucoup de rendez-vous. Pour le week-end, nous sommes déjà bien bouqué.
Pas de ruée non plus chez les esthéticiennes ou les rayons jouets des hypermarchés désormais ouverts. Ziad tient une boutique de vêtements. Il déballe ses tenues de fête. Dans son magasin, un seul client, alors qu'il a beaucoup plus de place.
J'ai 80 mètres carrés d'espace de vente, donc il faut limiter à 10 personnes. Là, clairement, l'objectif de cette année, c'est de réussir à payer tous mes fournisseurs. Donc là, j'ai beaucoup de retard dans mes paiements. J'espère boucler l'année sans dette.
Ce qui devrait vraiment changer la donne, c'est la réouverture des restaurants. Si la situation sanitaire continue à s'améliorer, ils pourraient rouvrir dans 2 semaines, soit avec plus d'un mois d'avance par rapport à l'Hexagone. Fort-de-France, Fanny Marceau, Europe 1.
6h10, le chauffage au gaz sera interdit dans les logements neufs dès l'année 2021.
Le gouvernement a dévoilé cette semaine les nouvelles normes de construction des bâtiments neufs avec l'objectif de rattraper son retard en matière de rénovation énergétique. Et il y a une mesure qui ne passe pas, Élise Dangean, c'est l'interdiction, à partir de l'été prochain, d'installer un chauffage au gaz dans une maison neuve.
Oui, mesure destinée à faire baisser le niveau d'émissions de CO2, mais très contestée des professionnels du gaz, d'abord qui rappellent leurs efforts pour rendre le réseau de plus en plus renouvelable, du secteur du bâtiment aussi, qui va devoir se réorganiser dans un délai très court. Et pour Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, le timing est très mal choisi.
Au bout du bout, c'est les salariés et les entreprises qui vont encore déguster. C'est-à-dire qu'on va ralentir la construction de ces logements qui étaient prévus déjà pour l'année 2021. Et ça, c'est pas acceptable dans une période de Covid et de crise où ces 2 années, logiquement, on ne devrait absolument pas toucher ce qui fonctionne parce qu'on est encore en phase de reprise, on n'est toujours pas en phase de relance. Si on veut que la relance fonctionne, eh bien, il faut nous laisser travailler tranquillement avec les normes actuelles.
Aujourd'hui, une maison neuve sur cinq est équipée au gaz. Le gouvernement ne veut donc plus perdre de temps. Prochaine étape, 2024 pour l'interdiction étendue au logement collectif. Là, ils sont 75% à utiliser le chauffage au gaz.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Une énième séance de négociation ce matin entre les partenaires sociaux pour arriver à trouver un consensus sur le projet d'accord national sur le télétravail. La CGT rejette pour l'instant la dernière version du texte.
Et puis aux États-Unis, Donald Trump a eu beau lancer la transition. En fait, il n'en démord pas. Hein. Plus de trois semaines après sa défaite à la présidentielle américaine, il continue de dénoncer un scrutin frauduleux.
Et dans une scène assez curieuse, Donald Trump appelle carrément ses électeurs à inverser le résultat à travers un haut-parleur de téléphone. Il s'adressait à des sénateurs républicains de l'Assemblée locale de la Pennsylvanie. Écoutez.
Nous les avons vus espionner ma campagne. Nous les avons vus faire ça. Je l'ai vu, tout le pays l'a vu. Et nous devons inverser cette élection parce qu'il n'y a pas de doute. Nous avons toutes les preuves, nous avons tout. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un juge qui écoute sans avoir d'opinion politique, sans avoir d'autres problèmes avec nous. Nous avons tout. Et par ailleurs, c'est un raz-de-marée de preuves dont nous disposons. Et je veux remercier Rudy Giuliani d'avoir le courage de le faire. Parce que d'autres avocats, eux, ont eu peur des représailles.
Voilà, Donald Trump, encore une fois, très déterminé.
6h12 sur Europe 1, c'était le journal de Sophie Echen.